From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la session du dimanche matin de la 188e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session est interprétée par le Mormon Tabernacle Choir. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.
President Russell M. Nelson will conduct this session.
Frères et sœurs, en ce beau matin de Pâques, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du dimanche matin de la 188e conférence générale de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. C'est merveilleux d'être réunis en ce jour important où nous célébrons l'expiation et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous adressons nos salutations à toutes les personnes qui suivent ces réunions de par le monde. La musique de cette session sera interprétée par le Mormon Tabernacle Choir sous la direction de Mac Wilberg, avec Clay Christensen et Richard Elliott à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « On this day of joy and gladness » et interprétera maintenant « Le Christ est ressuscité » numéro 122 dans le recueil de cantiques français. Ensuite, Mark Palmer, des 70, fera la prière d'ouverture. Il sera suivi par le chœur qui chantera « Il envoya son fils aimé » numéro 20 dans le livre de chants des enfants.
Notre Père céleste, nous sommes réunis en ce jour glorieux, matin de Pâques. Nous te sommes tellement reconnaissants pour le don de ton Fils, pour son exemple parfait, pour son sacrifice expiatoire et pour la connaissance sûre qu'il vit et qu'il nous assure d'avoir la vie éternelle. Nous sommes reconnaissants d'avoir un prophète, le président Nelson, et tous ceux qui servent comme prophètes, voyants et révélateurs. Qu'ils soient fortifiés par toi et qu'ils reçoivent la révélation dont ils ont besoin pour guider cette Église. Nous prions pour eux et pour que ton esprit soit présent pendant cette conférence, que ceux qui ont le cœur brisé soient guéris et que nous soyons, chacun de nous, que nous ressentions, que nous ayons le désir d'être de meilleurs disciples de Jésus-Christ. Nous offrons cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Larry Wilson, des 70. Il sera suivi de Reina Isabel Aburto, deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de secours. Massimo De Feo et Claudio Civic, des 70, nous adresseront ensuite la parole.
En ce dimanche de Pâques, nos pensées se tournent vers la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et la tombe vide qui donne à chaque croyant l'espérance dans le triomphe du Christ, prenant la place d'une défaite certaine. Avec l'apôtre Paul, je crois que tout comme Dieu a ressuscité le Christ d'entre les morts, de même, il rendra la vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Tout comme le Christ ramène notre corps à la vie après la mort physique, grâce au pouvoir de sa résurrection, il peut aussi nous ramener de la mort spirituelle. Dans le livre de Moïse, on lit qu'Adam connut ce passage à la vie. Adam fut baptisé et l'Esprit du Seigneur descendit sur lui. Et c'est ainsi qu'il naquit de l'Esprit et il fut vivifié dans l'homme intérieur. Quel don incomparable reçoivent les personnes qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Ce don est le Saint-Esprit qui nous offre ce que le Nouveau Testament appelle la vie en Jésus-Christ. Mais considérons-nous parfois ce don comme allant de soi? Frères et sœurs, c'est un honneur extraordinaire d'avoir le Saint-Esprit pour guide, comme le montre l'histoire suivante. Pendant la guerre de Corée, l'officier de marine Frank Blair servait sur un navire de transport de troupes affecté au Japon. Le navire n'était pas suffisamment grand pour avoir un aumônier, alors le capitaine a demandé à frère Blair de devenir l'aumônier non officiel, car il avait observé que le jeune homme était une personne de foi et de principe, et que tout l'équipage le respectait extrêmement. L'officier Blair écrivit « Notre navire fut pris dans un violent typhon. Les vagues atteignaient près de 15 mètres de haut. J'étais de quart et, à ce moment-là, un de nos trois moteurs s'arrêta de fonctionner et l'on découvrit une fissure qui s'étendait au milieu du navire. Il restait deux moteurs, mais l'un des deux ne fonctionnait qu'à demi-puissance. Nous étions dans une situation critique. » L'officier Blair termina son quart et s'apprêtait à se mettre au lit lorsque le capitaine frappa à sa porte. Il demanda « Pourriez-vous prier pour le bateau ?» Bien entendu, l'officier Blair accepta de le faire. À ce moment-là, il aurait pu simplement dire dans sa prière « Père Céleste, veuille bénir notre bateau et nous préserver, puis aller dormir. » Au lieu de cela, il pria pour savoir ce qu'il pouvait faire pour la sécurité du navire. En réponse à la prière de frère Blair, le Saint-Esprit le poussa à aller sur le pont et à parler au capitaine pour mieux connaître la situation. Il découvrit que le capitaine essayait de déterminer la vitesse à laquelle faire tourner les moteurs restants du navire. L'officier Blair retourna dans sa cabine pour prier à nouveau. Il demanda « Que puis-je faire pour résoudre le problème des moteurs ?» En réponse, le Saint-Esprit murmura qu'il devait faire le tour du navire et observer pour réunir davantage d'informations. Il retourna de nouveau voir le capitaine et lui demanda l'autorisation de faire le tour du pont. Puis, un filin de sécurité noué autour de la taille, il sortit dans la tempête. Tandis qu'il se tenait à la proue du navire, il observa les hélices géantes qui sortaient de l'eau chaque fois que le navire était au sommet d'une vague. Une seule hélice fonctionnait à plein régime et elle tournait très vite. Après ces observations, l'officier Blair fit une nouvelle prière. Il reçut la réponse claire que le seul moteur qui tournait correctement subissait trop de pression et qu'il fallait le ralentir. Alors il retourna donc voir le capitaine et lui donna ce conseil. Le capitaine fut surpris, car l'ingénieur du navire venait de lui suggérer exactement le contraire, augmenter la vitesse du moteur qui fonctionnait correctement afin de sortir de la tempête. Le capitaine choisit néanmoins de suivre le conseil de l'officier Blair et ralentit le moteur. Au petit matin, le navire était en sécurité dans des eaux calmes. Seulement 2 heures plus tard, le moteur en bon état cessa complètement de fonctionner. Grâce au moteur restant qui marchait à demi-puissance, le navire arriva tant bien que mal au port. Le capitaine dit à l'officier Blair, « Si nous n'avions pas ralenti le moteur comme nous l'avons fait, il serait tombé en panne au beau milieu de la tempête. Sans ce moteur, il aurait été impossible de diriger le navire. Celui-ci se serait retourné et aurait sombré. » Le capitaine remercia le jeune officier membre de l'Église et affirma qu'il était convaincu que le fait d'avoir suivi ses impressions spirituelles avait sauvé le navire et son équipage. Cette histoire est assez spectaculaire. Il est peu probable que nous nous trouverons dans une situation aussi désespérée, mais cette histoire comporte des indications importantes sur la façon dont nous pouvons recevoir plus fréquemment l'aide du Saint-Esprit. Premièrement, pour ce qui est de la révélation, nous devons régler notre récepteur sur la longueur d'onde du ciel. L'officier Blair menait une vie pure et fidèle. S'il n'avait pas été obéissant, il n'aurait pas eu la confiance spirituelle nécessaire pour prier comme il l'a fait, pour la sécurité de son navire et pour recevoir des instructions aussi précises. Nous devons tous faire l'effort de conformer notre vie au commandement de Dieu afin qu'il nous guide. Parfois, nous ne parvenons pas à entendre le message des cieux parce que nous ne sommes pas dignes. Le repentir et l'obéissance permettent de retrouver une communication claire. Dans l'Ancien Testament, le mot hébreu traduit par « repentir » signifie « se tourner » ou « faire demi-tour ». Lorsque vous avez l'impression d'être loin de Dieu, vous devez simplement prendre la décision de vous détourner du péché et de faire face au Sauveur. Et vous le trouverez en train de vous attendre, les bras grands ouverts. Il est désireux de vous guider. Il suffit d'une prière pour recevoir de nouveau son aide. Deuxièmement, l'officier Blair ne s'est pas contenté de demander au Seigneur de résoudre son problème. Il a demandé ce qu'il pouvait faire pour contribuer à sa résolution. De même, nous pourrions demander, « Seigneur, que dois-je faire pour contribuer à la résolution de mon problème ?» Au lieu de faire la liste de nos problèmes dans notre prière et de demander au Seigneur de les résoudre, nous devrions rechercher les manières plus dynamiques de recevoir son aide et nous engager à agir conformément aux instructions de l'Esprit. Nous pouvons tirer une troisième leçon de l'histoire de l'officier Blair. Aurait-il pu prier avec tant de calme et d'assurance s'il n'avait pas déjà reçu l'aide de l'Esprit auparavant? Ce n'est pas quand le typhon arrive qu'il faut ressortir le don du Saint-Esprit et chercher à comprendre comment l'utiliser. Ce jeune homme suivait manifestement un modèle qu'il avait utilisé de nombreuses fois auparavant, y compris pendant sa mission à plein temps. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour guide lorsque les eaux sont calmes. Ainsi, sa voix nous sera facilement reconnaissable durant la tempête la plus violente. Certaines personnes pensent que nous ne devrions pas nous attendre à être guidés quotidiennement par l'Esprit parce qu'il n'est pas convenable que le Seigneur commande en tout. Mais cette écriture fut donnée à certains des premiers missionnaires qui demandaient à Joseph Smith une révélation qu'ils auraient dû recevoir personnellement. Dans un verset précédent, le Seigneur leur dit de se rendre dans le champ de la mission selon qu'ils en délibèrent entre eux et lui. Ces missionnaires voulaient une révélation précise concernant leur itinéraire de voyage. Ils n'avaient pas encore appris à prendre leurs propres décisions concernant des sujets personnels. Le Seigneur qualifia cette attitude de paresse. Les premiers membres de l'Église étaient probablement tellement heureux d'avoir un véritable prophète qu'ils risquaient de ne pas apprendre comment recevoir la révélation pour eux-mêmes. L'autonomie spirituelle consiste à être capable d'entendre la voix du Seigneur par l'intermédiaire de son esprit pour sa vie personnelle. Alma conseilla à son fils de consulter le Seigneur dans toutes ses actions. Vivre de cette manière, ce que nous appelons souvent vivre par l'Esprit, est un grand honneur. Cela produit un sentiment de sérénité et d'assurance, ainsi que les fruits de l'Esprit tels que l'amour, la joie et la paix. La capacité de l'officier Blair à recevoir la révélation les a sauvés, ses compagnons de bord et lui d'une tempête déchaînée. D'autres genres de tempêtes font rage de nos jours. Dans le Livre de Mormon, la parabole de l'arbre de vie est une illustration puissante de la façon de se mettre en sécurité spirituelle dans un tel monde. Ce songe parle d'un brouillard de ténèbres qui s'élève subitement pour entraîner la destruction spirituelle des membres de l'Église qui marchent sur le chemin qui les ramène à Dieu. En réfléchissant à cette comparaison, j'imagine des foules de gens qui avancent sur ce chemin, certains s'agrippant fermement à la barre de fer, mais beaucoup d'autres simplement en train de suivre les pas des personnes qui les précèdent. Cette dernière façon d'avancer demande peu de réflexion et d'effort. Il suffit pour cela de faire et penser ce que les autres font et pensent. Cela fonctionne très bien lorsque le temps est ensoleillé, mais les tempêtes de la tromperie et les brouillards du mensonge surviennent sans prévenir. Dans ces situations, connaître la voie du Saint-Esprit est une question de vie ou de mort spirituelle. Néphi fait la grande promesse que quiconque prête l'oreille à la parole de Dieu et s'y tient fermement ne périra jamais, et que les tentations et les traits enflammés de l'adversaire ne pourront pas non plus avoir le dessus sur lui au point de l'aveugler pour l'entraîner vers la destruction. Il n'est pas suffisant de suivre les pas des personnes qui nous précèdent. Nous ne pouvons pas simplement faire et penser ce que les autres font et pensent. Nous devons écouter la voix de Dieu. Nous devons tous tenir la barre de fer. Ensuite, nous pourrons nous adresser au Seigneur plein d'une confiance humble, sachant qu'il nous conduira par la main et nous donnera la réponse à nos prières. Au nom de Jésus-Christ, amen.
L'une des créatures les plus remarquables de la Terre est le papillon appelé monarque. Au cours d'un voyage au Mexique pour passer Noël dans la famille de mon mari, nous avons visité une réserve de papillons où des millions de monarques passent l'hiver. C'était fascinant de voir un spectacle aussi impressionnant et de réfléchir à l'exemple d'unité et d'obéissance aux lois divines manifestées par les créatures de Dieu. Les monarques ont un excellent sens de l'orientation. Ils se servent de la position du soleil pour trouver la direction à prendre. Tous les ans, au printemps, ils parcourent des milliers de kilomètres pour se rendre du Mexique au Canada. Et tous les ans, à l'automne, ils retournent dans les mêmes forêts de sapins sacrés du Mexique. Ils font cela chaque année, un minuscule battement d'ailes à la fois. Pendant leur voyage, ils s'agglutinent la nuit sur les arbres pour se protéger les uns les autres du froid et des prédateurs. Un groupe de papillons ressemble à un kaléidoscope. N'est-ce pas une magnifique image? Chaque papillon est unique et différent. Pourtant, un créateur aimant a fait en sorte que ces créatures apparemment fragiles aient la capacité de survivre, voyager, se multiplier et propager la vie, tandis qu'elles passent d'une fleur à l'autre, répandant le pollen. Bien que chaque papillon soit différent, ils travaillent tous ensemble pour rendre le monde plus beau et plus fructueux. Comme les monarques, nous faisons un voyage pour retourner dans notre foyer céleste, où nous serons réunis à nos parents célestes. Comme les papillons, nous avons reçu des qualités divines qui nous permettent de nous orienter dans la vie, afin de remplir la mesure de notre création. Comme eux, si nos cœurs sont enlacés dans l'unité, le Seigneur nous protégera comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et fera de nous un magnifique kaléidoscope. Enfants, jeunes filles et jeunes gens, sœurs et frères, nous faisons ce voyage ensemble. Afin d'atteindre notre destinée sublime, nous avons besoin les uns des autres et devons être unis. Le Seigneur nous a commandé « Soyez un ». Et si vous n'êtes pas un, vous n'êtes pas de moi. Jésus-Christ est l'exemple suprême d'unité avec son Père. Ils sont un en but, en amour et en œuvre. La volonté du Fils est engloutie dans la volonté du Père. Comment pouvons-nous suivre l'exemple parfait d'unité du Seigneur avec son Père et être plus unis à eux et les uns aux autres? Nous trouvons un modèle inspirant dans Actes 1,14 qui dit « Tous, d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes. Je pense qu'il est significatif que l'expression d'un commun accord figure à plusieurs reprises dans le livre des Actes, qui raconte ce que les disciples de Jésus-Christ firent immédiatement après son ascension au ciel en tant qu'êtres ressuscités, et qui rapporte les bénédictions qu'ils reçurent du fait de leurs efforts. Il est également remarquable de trouver un modèle identique parmi les fidèles dans les Amériques au moment où le Seigneur leur rendit visite et les instruisit. L'expression d'un commun accord signifie « dans l'entente, dans l'unité et tous ensemble ». Voici ce que firent dans l'unité les saints fidèles dans les deux parties du monde. Ils témoignèrent de Jésus-Christ, étudièrent ensemble la parole de Dieu et se servirent les uns les autres avec amour. Les disciples du Seigneur étaient un en but, en amour et en œuvre. Ils savaient qui ils étaient, ils savaient ce qu'ils devaient faire et ils le faisaient par amour pour Dieu et pour leurs prochains. Ils étaient les éléments d'un magnifique kaléidoscope avançant d'un commun accord. Voici les bénédictions qu'ils reçurent. Ils furent remplis du Saint-Esprit. Des miracles s'accomplirent parmi eux et l'Église progressa. Il n'y avait pas de querelle parmi eux, peuple, et le Seigneur les bénissait en tout. Nous pouvons supposer que la raison pour laquelle ils étaient tellement unis est qu'ils connaissaient personnellement le Seigneur. Ils avaient été proches de lui et avaient été témoins de sa mission divine, des miracles qu'il avait accomplis et de sa résurrection. Ils virent et touchèrent les marques dans ses mains et dans ses pieds. Ils savaient avec certitude qu'il était le Messie promis, le Rédempteur du monde. Ils savaient qu'il est la source de toute guérison, de toute paix et de toute progression éternelle. Même si nous n'avons pas vu notre Sauveur physiquement, nous pouvons savoir qu'il vit. Si nous nous rapprochons de lui et cherchons à recevoir le témoignage personnel par le Saint-Esprit de sa mission divine, nous comprendrons mieux notre objectif. L'amour de Dieu demeurera dans notre cœur. Nous serons déterminés à être unis dans les kaléidoscopes de notre famille, de notre paroisse et de notre collectivité. Et nous nous servirons les uns les autres de manières nouvelles et meilleures. Il se produit des miracles lorsque les enfants de Dieu œuvrent ensemble, guidés par l'Esprit, pour tendre la main aux personnes dans le besoin. Nous entendons d'innombrables histoires où l'amour du prochain se manifeste pendant des catastrophes. Par exemple, l'année dernière, lorsque la ville de Houston a subi des inondations catastrophiques, les gens ont oublié leurs propres besoins pour porter secours aux autres. Un président de collège l'Ancien a lancé un appel à l'aide à la collectivité et 77 bateaux ont été envoyés. Les sauveteurs ont parcouru les quartiers inondés et ont transporté des familles entières jusqu'à nos églises où elles ont trouvé un abri et l'aide nécessaire. Membres de l'Église et non-membres ont travaillé ensemble à un objectif commun. À Santiago, au Chili, une présidente de société de secours a eu le désir d'aider les immigrants de sa collectivité venue d'Haïti. Elle en a parlé avec ses dirigeants de la prêtrise et ensemble, ils ont eu l'idée de leur proposer des cours d'espagnol afin de les aider à mieux s'intégrer dans leur nouvelle patrie. Tous les samedis matins, les missionnaires se sont réunis avec leurs élèves motivés. Le sentiment d'unité dans ce bâtiment est un exemple inspirant de personnes d'horizons différents qui servent d'un commun accord. Au Mexique, des centaines de membres ont voyagé pendant des heures pour aider les victimes de deux forts séismes. Ils sont arrivés avec des outils et des machines et l'amour pour leurs prochains. Pendant que les bénévoles rassemblés dans une de nos églises attendaient les consignes, le maire de la ville Ixhuatan a éclaté en sanglots devant une telle manifestation de l'amour pur du Christ. Le Seigneur nous donne maintenant l'occasion de tenir conseil chaque mois dans nos collèges de la prêtrise et nos sociétés de secours afin de pouvoir être de participants plus actifs dans le kaléidoscope de notre paroisse ou de notre branche où nous avons tous notre place et sommes tous nécessaires. Nos chemins sont différents et pourtant, nous marchons ensemble. Notre chemin n'est pas d'où nous venons et ce que nous avons fait. Notre chemin, c'est là où nous allons et ce que nous sommes en train de devenir dans l'unité. Lorsque nous tenons conseil sous la direction du Saint-Esprit, nous pouvons voir où nous sommes et où nous devons être. Le Saint-Esprit nous donne une vision que nos yeux naturels ne peuvent pas voir, parce que la révélation se déverse sur nous tous, et lorsque nous rassemblons cette révélation, nous pouvons voir davantage. Quand nous travaillons dans l'unité, notre objectif doit être de rechercher et d'accomplir la volonté du Seigneur. Notre motivation doit être l'amour que nous éprouvons pour Dieu et pour notre prochain, et notre plus grand désir doit être de travailler diligemment afin de pouvoir préparer le chemin pour le retour glorieux de notre Sauveur. La seule manière d'y arriver est de le faire d'un commun accord. Comme les monarques, nous continuons notre voyage unis dans le même objectif, chacun de nous avec ses qualités et ses contributions, travaillant pour rendre le monde encore plus beau et plus fructueux, une petite étape à la fois, et en parfaite harmonie avec notre Sauveur. Notre Sauveur Jésus-Christ nous a promis que lorsque nous nous assemblons en son nom, il est au milieu de nous. Je témoigne qu'il vit et qu'il est ressuscité par une magnifique matinée de printemps comme celle-ci. Il est le monarque au-dessus de tous les monarques, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Je prie pour que nous soyons unis avec le Père et son Fils bien-aimé, en étant guidés par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous aimons le président Monson et il nous manque. Et nous aimons et soutenons le président Nelson. Le président Nelson tient une place spéciale dans mon cœur. Lorsque j'étais jeune père, notre fils, qui avait 5 ans, est rentré de l'école un jour et a demandé à sa mère « Qu'est-ce qu'il fait, papa, comme travail ?» Il a alors expliqué que ses nouveaux camarades de classe avaient commencé à discuter des métiers de leur père. L'un d'eux a dit que son père était le chef de la police de la ville. Un autre a déclaré fièrement que son père était le chef d'une grande société. Lorsqu'on lui a demandé ce que faisait son père, mon fils a simplement répondu « Mon père travaille dans un bureau devant un ordinateur ». Puis, ayant remarqué que sa réponse n'avait pas impressionné ses nouveaux copains, il a ajouté « Et au fait, mon père, c'est le chef de l'univers ». J'imagine que cela a mis fin à la conversation. J'ai dit à ma femme, il est temps de lui enseigner plus en détail le plan de salut et de lui révéler qui est vraiment aux commandes. Lorsque nous avons enseigné le plan de salut à nos enfants, leur amour pour notre Père Céleste et pour le Sauveur a grandi quand ils ont su que c'était un plan d'amour. L'évangile de Jésus-Christ est axé sur l'amour du Père et du Sauveur et sur notre amour pour eux et pour autrui. Jeffrey R. Holland a déclaré « Le premier grand commandement de toute l'éternité est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre pouvoir, tout notre esprit et toute notre force. C'est le premier grand commandement. Mais la première grande vérité de toute l'éternité est que Dieu nous aime de tout son cœur, de tout son pouvoir, de tout son esprit et de toute sa force. » Cet amour est la pierre de fondation de l'éternité et devrait être la pierre de fondation de notre vie quotidienne. Fin de citation. Comme l'amour pur est la pierre de fondation de notre vie quotidienne, tous les vrais disciples de Jésus-Christ doivent le posséder. Le prophète Mormon a enseigné. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, priez le Père de toute l'énergie de votre cœur afin d'être rempli de cet amour qu'il a accordé à tous ceux qui sont de vrais disciples de son Fils, Jésus-Christ. L'amour est, de fait, la véritable marque de tout vrai disciple de Jésus-Christ. Les véritables disciples aiment servir. Ils savent que le service est une expression d'amour véritable et une alliance qu'ils ont contractée lorsqu'ils se sont fait baptiser. Quels que soient leurs appels dans l'Église ou leur rôle dans la collectivité, ils ont un désir de plus en plus grand d'aimer et de servir le Seigneur et leurs prochains. Les véritables disciples aiment pardonner. Ils savent que l'expiation du Sauveur couvre les péchés et les fautes de chacun de nous. Ils savent que le prix qu'il a payé comprend tout. Les taxes, les commissions, les frais spirituels et les pénalités liées aux péchés et aux fautes, tous sont pris en charge. Les véritables disciples sont prompts à pardonner et à demander pardon. Mes chers frères et sœurs, si vous avez du mal à trouver la force de pardonner, ne pensez pas à ce que les autres vous ont fait, mais pensez à ce que le Seigneur a fait pour vous, et vous trouverez la paix dans les bénédictions rédemptrices de son expiation. Les véritables disciples aiment se soumettre au Seigneur, leur cœur empli de paix. Ils sont humbles et soumis parce qu'ils l'aiment. Ils ont la foi d'accepter pleinement sa volonté, quoi qu'il fasse, quelle que soit sa façon d'agir et quel que soit le moment où il agit. Les véritables disciples savent que les vraies bénédictions ne sont pas toujours celles qu'ils veulent, mais celles que le Seigneur veut pour eux. Ils aiment le Seigneur plus que le monde et sont inébranlables et immuables dans leur foi. Ils demeurent fermes dans un monde changeant et déroutant. Ils aiment écouter la voix de l'Esprit et des prophètes et ne se laissent pas tromper par les voix du monde. Ils aiment se tenir dans des lieux saints et faire en sorte que les lieux où ils se tiennent deviennent saints. Où qu'ils aillent, ils apportent l'amour du Seigneur et la paix dans le cœur des autres. Ils aiment obéir au commandement du Seigneur et ils y obéissent parce qu'ils aiment le Seigneur. Du fait qu'ils aiment et respectent leurs alliances, leur cœur est renouvelé et leur nature même est changée. L'amour pur est la marque véritable de tout vrai disciple de Jésus-Christ. J'ai appris de ma mère ce qu'est l'amour pur. Elle n'était pas membre de l'Église. Un jour, il y a de nombreuses années, je suis allé lui rendre visite. Elle luttait contre un cancer. Je savais qu'elle allait mourir, mais ses souffrances me préoccupaient. Je n'ai rien dit, mais me connaissant bien, elle m'a dit « Je vois que tu es préoccupé ». Puis, à ma grande surprise, elle m'a demandé d'une voix faible « Est-ce que tu peux m'apprendre à prier ? Je veux prier pour toi. » Je sais que l'on commence en disant « Cher Père Céleste », mais que dois-je dire ensuite ? Alors que j'étais à genoux, au pied de son lit, et qu'elle priait pour moi, j'ai ressenti un amour que je n'avais jamais ressenti auparavant. C'était un amour simple, véritable et pur. Bien que ne connaissant pas le plan de salut, elle avait dans le cœur son plan d'amour à elle, le plan d'amour d'une mère pour son fils. Elle souffrait et avait même du mal à trouver la force de prier. J'ai à peine entendu sa voix, mais j'ai sans aucun doute ressenti son amour. Je me rappelle m'être demandé, comment une personne qui souffre autant peut-elle prier pour quelqu'un d'autre ? C'est elle qui est dans le besoin. La réponse m'est venue clairement à l'esprit. C'est l'amour pur. Elle m'aimait tant qu'elle en a oublié sa souffrance. À cet instant décisif, elle m'aimait plus qu'elle ne s'aimait elle-même. Mes chers frères et sœurs, n'est-ce pas là ce que le Seigneur a fait ? Bien sûr, il l'a fait à un niveau beaucoup plus grand et éternel. Mais alors qu'il souffrait à l'extrême d'une manière inimaginable et incompréhensible pour nous dans le jardin, cette nuit-là, c'était lui qui avait besoin d'aide. Mais pour finir, il a oublié ses souffrances et a prié pour nous jusqu'à ce qu'il eu payé le prix complet. Comment a-t-il pu faire cela? Grâce à son amour pur pour le Père qu'il a envoyé et pour nous. Il aimait le Père et il nous aimait plus qu'il ne s'aimait lui-même. Il a payé pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il a payé pour des péchés qu'il n'avait pas commis. Pourquoi? La réponse est l'amour pur. Ayant payé le prix complet, il pouvait nous offrir les bénédictions de ce qu'il avait payé à condition que nous nous repentions. Pourquoi a-t-il offert cela? La réponse est l'amour pur. L'amour pur est la marque véritable de tout vrai disciple de Jésus-Christ. Thomas Monson a dit « Commençons maintenant, aujourd'hui même, à exprimer de l'amour à tous les enfants de Dieu, qu'ils soient membres de notre famille, nos amis, de simples connaissances ou de parfaits inconnus. Chaque matin quand nous nous levons, prenons la décision de réagir avec amour et avec gentillesse dans toutes les situations qui se présenteront. » Frères et sœurs, l'évangile de Jésus-Christ est un évangile d'amour. Le plus grand commandement a trait à l'amour. Pour moi, tout est une question d'amour. L'amour du Père qui a sacrifié son Fils pour nous, l'amour du Sauveur qui a tout sacrifié pour nous, l'amour d'une mère ou d'un père qui donnerait tout pour leurs enfants, l'amour des personnes qui servent sans bruit et que peu de nous connaissent, mais que le Seigneur connaît bien, l'amour des personnes qui pardonnent toujours tout, l'amour des personnes qui donnent plus que ce qu'elles reçoivent. J'aime mon Père Céleste, j'aime mon Sauveur, j'aime l'Évangile, j'aime l'Église, j'aime ma famille, j'aime cette vie merveilleuse. Pour moi, tout est une question d'amour. Puis ce jour où nous célébrons la résurrection du Sauveur être un jour de renouveau spirituel pour chacun de nous, qu'il marque le commencement d'une vie remplie d'amour, la pierre de fondation de notre vie quotidienne. Que notre cœur soit rempli de l'amour pur du Christ, la véritable marque de tout vrai disciple de Jésus-Christ. C'est là ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Chers frères et sœurs, je suis très reconnaissant d'avoir l'occasion de vous exprimer quelques-uns de mes sentiments. Il y a plusieurs années, ma femme et moi assistions à l'inauguration de l'exposition interactive pour les enfants au Musée d'histoire de l'Église à Salt Lake City. À la fin de la cérémonie, le président Monson s'est approché de nous et, tandis qu'il nous serrait la main, il a dit « Persévérez et vous triompherez ». Un enseignement profond et une vérité que, bien sûr, nous pouvons tous affirmer. Jésus-Christ nous a assuré que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer signifie rester ferme dans son engagement d'être fidèle au commandement de Dieu en dépit des tentations, de l'opposition ou de l'adversité. Même les personnes qui ont eu de grandes expériences spirituelles et qui ont rendu un service fidèle peuvent un jour s'égarer ou s'éloigner de l'Église si elles ne persévèrent pas jusqu'à la fin. Puissions-nous toujours garder clairement à l'esprit et dans le cœur l'affirmation « Cela ne m'arrivera pas ». Quand Jésus-Christ enseigna à Capharnaüm, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12 « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Je crois qu'aujourd'hui, Jésus-Christ demande à tous ceux qui ont contracté des alliances sacrées avec lui, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Je prie pour que chacun d'entre nous, en réfléchissant profondément à ce que les éternités nous réservent, réponde comme Simon-Pierre. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Soyons fidèles à ce que nous avons cru et à ce que nous savons. Si nous ne vivons pas conformément à notre connaissance, changeons. Les pécheurs qui persévèrent dans leur péché et ne se repentent pas s'enfoncent de plus en plus dans le vice jusqu'à ce que Satan les fasse sien, compromettant considérablement leur possibilité de se repentir, d'être pardonnés et de recevoir toutes les bénédictions de l'éternité. J'ai entendu beaucoup de justifications de personnes qui ont cessé de participer activement dans l'Église et qui ont perdu la bonne vision du but de notre voyage sur terre. Je les exhorte à réfléchir et à revenir, car je crois que personne ne pourra trouver d'excuses devant notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous nous sommes fait baptiser, nous avons contracté des alliances, non avec un homme, mais avec le Sauveur, acceptant de prendre sur nous le nom de Jésus-Christ, étant déterminés à le servir jusqu'à la fin. La participation aux réunions de Sainte-Cène est l'un des principaux moyens par lesquels nous pouvons évaluer notre détermination de le servir, notre force spirituelle et la progression de notre foi en Jésus-Christ. La chose la plus importante que nous faisons le jour du sabbat est de prendre la Sainte-Cène. Le Seigneur a expliqué cette ordonnance à ses apôtres juste avant sa mort. Il a fait de même dans les Amériques. Il nous dit que si nous participons à cette ordonnance, ce sera un témoignage au Père que nous nous souvenons toujours de lui. Et il promet que par conséquent, nous aurons son esprit avec nous. Dans les enseignements d'Alma le jeune à son fils Chiblon, nous trouvons des conseils et des avertissements pleins de sagesse qui nous aident à rester fidèles à nos alliances. Veille à ne pas être enflé dans l'orgueil. Oui, veille à ne pas te vanter de ta sagesse ni de ta grande force. Use de hardiesse, mais pas d'arrogance. Et veille aussi à tenir toutes tes passions en bride, afin d'être rempli d'amour. Veille à t'abstenir de l'oisiveté. Il y a quelques années, pendant mes vacances, j'ai voulu faire du kayak pour la première fois. J'ai loué un kayak et, plein d'enthousiasme, je me suis lancé en mer. Quelques minutes plus tard, une vague a retourné le kayak. Avec énormément d'efforts, tenant la pagaie d'une main et le kayak de l'autre, j'ai pu reprendre pied. J'ai réessayé de pagayer, mais quelques minutes plus tard, le kayak s'est à nouveau retourné. J'ai obstinément continué à essayer, sans succès, jusqu'à ce qu'une personne qui s'y connaissait en kayakisme me dise qu'il devait y avoir une fissure dans la coque et que le kayak avait dû se remplir d'eau, ce qui le rendait instable et impossible à diriger. J'ai traîné le kayak jusqu'au rivage et enlevé le bouchon, et bien sûr, une grande quantité d'eau en est sortie. Je pense que nous traversons parfois la vie avec des péchés qui, comme la voie d'eau dans mon kayak, entravent notre progression spirituelle. Si nous persistons dans nos péchés, nous oublions les alliances que nous avons contractées avec le Seigneur, même si nous continuons à chavirer à cause du déséquilibre que ces péchés causent dans notre vie. Comme pour les fissures dans mon kayak, il faut s'occuper des fissures dans notre vie. Il faudra plus d'efforts pour se repentir de certains péchés que pour d'autres. Nous devons donc nous demander, où en sommes-nous pour ce qui est de notre attitude envers le Sauveur et son œuvre? Sommes-nous dans la situation de Pierre quand il a renié Jésus-Christ? Ou avons-nous progressé au point où nous avons l'attitude et la détermination qu'il a eue après la grande mission qu'il a reçue du Sauveur? Nous devons nous efforcer d'obéir à tous les commandements et porter une attention particulière à ce qu'il nous est le plus difficile de respecter. Le Seigneur sera à nos côtés, nous aidant dans les moments de besoin et de faiblesse. Et si nous manifestons un désir sincère et agissons en conséquence, il rendra fortes les choses qui sont faibles. L'obéissance nous donnera la force de vaincre le péché. Nous devons également comprendre que l'épreuve de notre foi nous oblige à obéir, souvent sans en connaître le résultat. Je propose une formule qui nous aidera à persévérer jusqu'à la fin. Prions et étudions les Écritures quotidiennement. Prenons la Sainte Cène, le cœur brisé et l'esprit contrit chaque semaine. Payons notre dîme et nos offrandes de jeûne chaque mois. Renouvelons notre recommandation à l'usage du temple tous les 2 ans, tous les ans pour les jeunes. Servons dans l'œuvre du Seigneur tout au long de notre vie. Puissent les grandes vérités de l'Évangile stabiliser notre esprit et puissions-nous éviter dans notre vie les fissures qui peuvent gêner notre voyage à travers la mer qu'est cette vie. La réussite, à la manière du Seigneur, a un prix, et le seul moyen d'y parvenir est de payer ce prix. Combien je suis reconnaissant que notre Sauveur ait persévéré jusqu'à la fin, accomplissant son merveilleux sacrifice expiatoire. Il a souffert pour nos péchés, nos peines, nos dépressions, nos angoisses, nos infirmités, nos peurs. Par conséquent, il sait comment nous aider, comment nous inspirer, comment nous réconforter et comment nous fortifier pour que nous persévérions et obtenions la couronne réservée aux invaincus. La vie est différente pour chacun de nous. Nous avons tous un temps d'épreuve, un temps pour le bonheur, un temps pour prendre des décisions, un temps pour surmonter les obstacles et un temps pour saisir les occasions. Quelle que soit notre situation personnelle, je témoigne que notre Père Céleste nous dit constamment « Je t'aime, je te soutiens, je suis avec toi, n'abandonne pas, repens-toi et persévère dans la voie que je t'ai montrée et je t'assure que nous nous reverrons dans notre foyer céleste. » Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous sommes reconnaissants à Sœur Alberto, frère des Féo et Civic, et Wilson pour leur merveilleux discours.
Disciples of the Lord Jesus Christ, natives of North America, Central America,
ces frères et sœurs d'Amérique du Nord, centrale et du Sud sont de merveilleux disciples et nous ont instruits aujourd'hui avec un seul message, d'être des disciples du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à la fin. Et tout ira bien. L'Assemblée et le chœur chanteront maintenant « Hosanna au grand roi ». Numéro 34 dans le recueil des cantiques français. Après le cantique, nous aurons le plaisir d'entendre Henry Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence. Il sera suivi de Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence.
Vous assistez à la 188e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours.
Mes frères et sœurs, je suis reconnaissant d'avoir l'occasion de vous adresser la parole en ce jour du sabbat du Seigneur, pendant cette conférence générale et en cette période de Pâques. Je suis reconnaissant dans une conférence générale. Je remercie notre Père Céleste du don de son Fils bien-aimé qui est volontairement venu sur la terre pour être notre Rédempteur. Je suis reconnaissant de savoir qu'il a expié nos péchés et qu'il est ressuscité. Je me sens chaque jour béni de savoir que grâce à son expiation, je ressusciterai un jour et vivrai à jamais avec une famille aimante. Je sais cela de la seule façon dont chacun de nous peut le savoir. Le Saint-Esprit a déclaré à mon esprit et à mon cœur que c'est vrai, pas seulement une fois, mais souvent. J'ai besoin de ce réconfort permanent. Nous reconnaissons tous des tragédies au cours desquelles nous avons besoin d'être réconfortés par l'Esprit. C'est ce que j'ai vécu un jour alors que j'étais avec mon père à l'hôpital. Nous avons observé ma mère inspirer légèrement à quelques reprises, puis plus du tout. Tandis que nous regardions son visage, nous y avons vu un sourire, car la douleur l'avait quitté. Après quelques instants de silence, mon père a pris la parole le premier. Il a dit « Une petite fille est retournée chez elle. » Il a dit doucement. Il avait l'air en paix, presque heureux. Il déclarait quelque chose qu'il savait être vrai. Il a commencé tranquillement à rassembler les affaires de ma mère. Il est sorti dans le couloir de l'hôpital pour remercier chacune des infirmières et chacun des médecins qui s'étaient occupés d'elle pendant des jours. Mon père a bénéficié de la compagnie du Saint-Esprit à ce moment-là pour ressentir, pour savoir quoi faire et pour agir comme il l'a fait ce jour-là. Il avait obtenu, comme beaucoup d'autres, la réalisation de cette promesse afin qu'ils aient son esprit avec eux. Mon espoir aujourd'hui est d'augmenter votre désir et votre capacité de recevoir le Saint-Esprit. Souvenez-vous, il est le troisième membre de la divinité. Le Père et le Fils sont des êtres ressuscités. Le Saint-Esprit est un personnage d'esprit. Le choix vous appartient de le recevoir et de l'accueillir dans votre cœur et votre esprit. Les conditions selon lesquelles nous pouvons jouir de cette bénédiction divine sont énoncées clairement dans des paroles qui sont prononcées chaque semaine, mais qui ne pénètrent pas toujours profondément notre cœur et notre esprit. Pour que l'esprit nous soit accordé, nous devons nous souvenir toujours du Sauveur et garder ses commandements. Cette époque de l'année nous permet de nous rappeler le sacrifice du Sauveur et sa sortie du tombeau en tant qu'être ressuscité. Beaucoup d'entre nous ont en mémoire des images de ces lieux. Un jour, je me suis trouvé avec ma femme à l'extérieur d'un tombeau à Jérusalem. De nombreuses personnes croient qu'il s'agit du tombeau duquel le Sauveur est sorti en tant que Dieu, ressuscité et vivant. Ce jour-là, respectueusement, le guide a fait un signe de la main et nous a dit « Venez voir un tombeau vide ». Nous nous sommes penchés pour entrer. Nous avons vu un banc de pierre contre un mur. Mais il m'est venu une autre image à l'esprit, aussi réelle que ce que nous avons vu ce jour-là. C'était celle de Marie que les apôtres avaient laissée auprès du tombeau. C'est ce que l'esprit m'a permis de voir et même d'entendre dans mon esprit aussi clairement que si j'avais assisté à la scène. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » J'ai prié pour qu'il me soit permis de ressentir ce que Marie avait ressenti au tombeau, et ce que, alors qu'elle reconnaissait le Sauveur, et ce que deux autres disciples avaient ressenti sur la route d'Emmaüs, alors qu'ils marchaient aux côtés du Sauveur ressuscité, le prenant pour un visiteur venu à Jérusalem. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Certaines de ces paroles ont été prononcées lors d'une réunion de Sainte-Cène à laquelle j'ai assisté il y a plus de 70 ans. À cette époque, les réunions de Sainte-Cène se tenaient parfois en soirée. Il faisait nuit dehors. L'Assemblée a chanté ces mots familiers. Je les avais entendus à maintes reprises. Mais le souvenir qui m'est resté, c'est un sentiment éprouvé lors d'une soirée particulière. Ce sentiment me rapproche du Sauveur. Peut-être que si je répète ces paroles, nous le ressentirons tous. Demeure auprès de moi, Seigneur. Le jour déjà s'enfuit. Les ombres chassent sa lueur et c'est déjà la nuit. Pourtant, à haute, dans mon cœur, m'éclaire et me conduit. Demeure auprès de moi, Seigneur, et marche à mes côtés. Quand j'ai recours à toi, Sauveur, je suis réconforté. Tes mots éloignant ma terreur, vers toi m'ont ramené. Seigneur, reste avec moi ce soir. Voici déjà la nuit. Seigneur, reste avec moi ce soir. Voici déjà la nuit. Plus précieux que le souvenir des événements est le souvenir du Saint-Esprit qui touche notre cœur et qui affirme continuellement la vérité. Plus précieux que voir de nos yeux ou nous rappeler des paroles qui ont été prononcées et lues et le souvenir des sentiments qui ont accompagné la voix douce de l'Esprit. J'ai rarement ressenti exactement ce que les voyageurs sur la route d'Emmaüs ont ressenti, cette douce brûlure dans le cœur. Le plus souvent, c'est un sentiment de lumière et de calme assurance. Nous avons reçu la promesse inestimable d'avoir le Saint-Esprit pour compagnon, de même que nous disposons d'instructions véritables sur la façon dont nous pouvons avoir droit à ce don. Voici les mots que le serviteur autorisé du Seigneur prononce, ses mains sur notre tête. Recevez le Saint-Esprit. À cet instant précis, vous et moi obtenons l'assurance qu'il sera envoyé. Mais il nous incombe de choisir d'ouvrir notre cœur pour bénéficier du ministère de l'Esprit tout au long de notre vie. L'expérience de Joseph Smith, le prophète, peut nous servir de guide. Il a entrepris son ministère et l'a poursuivi après avoir décidé que sa seule sagesse ne suffisait pas pour connaître le chemin à suivre. Il a choisi être humble devant Dieu. Puis, il a décidé de demander à Dieu. Il a prié avec la foi que Dieu lui répondrait. Il a obtenu sa réponse alors qu'il n'était qu'un jeune homme. Il a reçu ses messages quand il a eu besoin de savoir comment Dieu voulait que son Église soit établie. Le Saint-Esprit l'a réconforté et guidé tout au long de sa vie. Il a obéi à l'inspiration quand c'était difficile. Par exemple, il a reçu la directive d'envoyer les 12 en Angleterre au moment où il avait le plus besoin d'eux. Il les a envoyés. Il a accepté d'être corrigé et réconforté par l'Esprit lorsqu'il a été emprisonné et que les saints ont été terriblement oppressés. Et il a obéi lorsqu'il s'est rendu à Carthage, bien que sachant qu'il était confronté à un danger mortel. Joseph Smith nous a donné l'exemple de la façon dont nous pouvons continuellement recevoir la direction spirituelle et le réconfort par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Son premier choix a été d'être humble devant Dieu. Le second a été de prier avec foi au Seigneur Jésus-Christ. Le troisième a été d'obéir avec exactitude. L'obéissance peut signifier agir rapidement. Cela peut signifier se préparer. Ou cela peut signifier attendre patiemment de recevoir davantage d'inspiration. Et le quatrième a été de prier pour connaître les besoins et le cœur des autres et savoir comment les aider pour le Seigneur. Joseph a prié pour les saints en détresse pendant qu'il était en prison. J'ai eu la possibilité d'observer les prophètes de Dieu alors qu'ils priaient, qu'ils demandaient l'inspiration, qu'ils recevaient des instructions et agissaient selon ce qu'ils avaient reçu. J'ai vu combien ils priaient souvent pour les gens qu'ils aiment et qu'ils servent. Leur souci des autres semble leur ouvrir le cœur pour recevoir l'inspiration. Cela peut être vrai pour vous. L'inspiration nous aidera à servir les autres pour le Seigneur. Vous l'avez vécu, tout comme moi. Mon évêque m'a dit un jour, à une époque où ma femme avait fort à faire dans sa vie, chaque fois que j'entends parler de quelqu'un qui a besoin d'aide dans la paroisse, lorsque j'arrive pour aider, je constate que votre femme est passée avant moi. Comment s'y prend-elle? Elle est comme tous les grands serviteurs au sein du royaume du Seigneur. Il y a deux choses qui les définissent. Les grands serviteurs se qualifient pour bénéficier de la compagnie quasi constante du Saint-Esprit. Et ils se sont qualifiés pour avoir le don de la charité, qui est l'amour pur du Christ. Ces dons croissent en eux à mesure qu'ils les utilisent en servant par amour pour le Seigneur. La manière dont la prière, l'inspiration et l'amour du Seigneur agissent ensemble lorsque nous servons est selon moi parfaitement décrite dans ces paroles. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je témoigne personnellement qu'à cet instant même, le Père vous connaît. Il connaît vos sentiments ainsi que les besoins spirituels et temporels de toutes les personnes qui vous entourent. Je témoigne que le Père et le Fils envoient le Saint-Esprit à toutes les personnes qui possèdent ce don, qui demandent à en bénéficier et qui s'efforcent d'en être dignes. Ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit ne s'imposeront dans votre vie. Nous sommes libres de choisir. Le Seigneur a déclaré à tous, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Je prie de tout mon cœur pour que vous écoutiez la voix de l'Esprit qui vous est envoyé si généreusement. Et je prie pour que vous ouvriez toujours votre cœur pour le recevoir. Si vous demandez l'inspiration avec une intention réelle et la foi en Jésus-Christ, vous la recevrez à la manière du Seigneur et en son temps. C'est ce que Dieu a fait pour le jeune Joseph Smith. C'est ce qu'il fait aujourd'hui pour notre prophète actuel et président de l'Église, Russell Nelson. Il vous a placé sur le chemin d'autres enfants de Dieu, afin que vous les serviez en son nom. Je sais cela, non seulement à cause de ce que j'ai observé de mes yeux, mais avec plus de puissance encore à cause de ce que l'Esprit a murmuré à mon cœur. J'ai ressenti l'amour du Père et du Fils pour tous les enfants de Dieu dans le monde et pour tous ceux qui sont dans le monde des esprits. J'ai bénéficié du réconfort et des conseils du Saint-Esprit. Je prie pour que vous connaissiez la joie d'avoir la compagnie de l'Esprit constamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Mes chers frères et sœurs, comme vous, j'ai été profondément touché, édifié et inspiré par les messages, la musique et les sentiments de ce moment que nous avons passé ensemble. Je suis persuadé que je parle pour vous en exprimant mes remerciements à ces frères et sœurs qui sont des instruments entre les mains du Seigneur pour nous donner la force de nous fortifier pendant que nous passons ce moment ensemble. Je suis reconnaissant de m'adresser à cet auditoire en ce dimanche de Pâques. Aujourd'hui, nous nous unissons aux autres chrétiens pour célébrer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Pour nous, membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, la résurrection de Jésus-Christ est un pilier de notre foi. Parce que nous croyons les récits de la Bible et du Livre de Mormon concernant la résurrection littérale de Jésus-Christ. Nous croyons aussi les nombreux passages scripturaires qui enseignent qu'une résurrection semblable sera accordée à tous les mortels qui ont vécu ici-bas. Cette résurrection nous donne ce que l'apôtre Pierre a appelé une espérance vivante. Cette espérance vivante est notre conviction que la mort n'est pas la fin de notre identité, mais simplement une étape nécessaire du plan miséricordieux de notre Père Céleste pour le salut de ses enfants. Ce plan nécessite une transition de la condition mortelle à l'immortalité. Le pivot de cette transition est le passage du crépuscule de la vie au glorieux matin de la résurrection, rendu possible par celle de notre Seigneur et Sauveur que nous célébrons en ce dimanche de Pâques. Dans ce merveilleux cantique, dont les paroles ont été écrites par Eliza R. Snow, nous chantons « Qu'il soit honoré pour toujours ». Le divin plan de vie qui réunit justice, amour en céleste harmonie. Pour accomplir ce dessein divin et réaliser cette harmonie divine, nous tenons des réunions, comme cette conférence, pour nous instruire et nous encourager les uns les autres. Ce matin, je me suis senti poussé à m'appuyer sur l'enseignement d'Alma, son fils et l'amant, rapporté dans le livre de Mormon. C'est par des choses petites et simples que de grandes choses sont réalisées. On nous enseigne beaucoup de choses petites et simples dans l'Évangile de Jésus-Christ. Il est nécessaire de rappeler que, cumulées sur une longue période, ces choses petites et simples permettent de réaliser de grandes choses. Ce sujet a été abordé par les autorités générales et d'éminents pédagogues à de nombreuses reprises. Il est si important que je me sens poussé à en parler encore. Lors d'une promenade matinale, j'ai vu quelque chose qui m'a rappelé le pouvoir des choses petites et simples au fil du temps. Voici la photo que j'en ai prise. Le trottoir en béton, épais et massif, se lézarde. Est-ce le résultat d'une quelconque poussée, grande et puissante, venue des profondeurs? Non. Ces fissures sont causées par la croissance lente et progressive d'une des racines de l'arbre tout proche. J'en ai trouvé cet autre exemple dans une autre rue. La force de la poussée qui a fissuré ces lourds trottoirs de béton était trop petite pour qu'on la mesure au jour le jour, ou même chaque mois. Mais avec le temps, son effet a été incroyablement puissant. Ainsi en est-il de l'effet puissant dans le temps des choses petites et simples qui nous sont enseignées dans les Écritures et par les prophètes actuels. Pensez à l'étude des Écritures qu'on nous a appris à intégrer à notre vie quotidienne. Ou pensez aux prières personnelles et aux prières agenouillées en famille, qui sont des pratiques régulières des saints des derniers jours fidèles. Songez à l'assistance au séminaire pour les jeunes ou au cours de l'Institut pour les jeunes adultes. Toutes ces pratiques peuvent paraître petites et simples, mais avec le temps, elles aboutissent à une édification et une progression spirituelle puissante. Cela se produit parce que chacune de ces choses, petites et simples, favorise la compagnie du Saint-Esprit, du témoin qui nous éclaire et nous guide vers la vérité, comme le président Eyring vient d'expliquer. La pratique continuelle du repentir, une autre source d'éducation spirituelle, même pour des transgressions petites en apparence, est une autre source d'édification et de progression spirituelle. Une auto-évaluation inspirée pour nous aider à voir là où nous avons chuté et comment nous pouvons mieux faire. Nous devrions passer par ce repentir chaque semaine avant de prendre la Sainte Cène. Certains sujets auxquels nous devons réfléchir dans ce processus de repentir sont évoqués dans le cantique. Ai-je fait du bien? Ai-je fait du bien dans ce monde aujourd'hui? Ai-je bien assisté mon prochain? Ai-je rendu joyeux un ami malheureux? Sinon, j'ai vécu en vain. Un fardeau, ai-je allégé aujourd'hui? Par mon désir de partager, et quand dans la détresse est trouvé autrui, ai-je été là, prêt à l'aider? Ce sont assurément de petites choses, mais c'est un bon exemple de ce qu'Alma a enseigné à son fils et l'amant. Et le Seigneur Dieu fait usage de moyens pour réaliser ses grands et éternels desseins. Et c'est par de très petits moyens que le Seigneur réalise le salut de nombreuses âmes. Lors d'une réunion à l'université Brigham Young à Hawaii, Stephen C. Wheelwright a donné la description inspirée suivante de l'enseignement d'Alma. Je cite, « Alma confirme à son fils que le modèle que suit le Seigneur, lorsque nous exerçons notre foi en lui et suivant ses conseils dans les choses petites et simples, et qu'il nous bénit par de petits miracles au quotidien et avec le temps par des œuvres merveilleuses. Howard W. Hunter a enseigné que souvent les tâches ordinaires ont le plus grand effet sur la vie des autres, contrairement à ce que le monde associe si souvent à la grandeur. Dan Coats, ancien sénateur de l'Indiana aux États-Unis, a donné un enseignement laïque convaincant de ce même principe lorsqu'il a écrit, je cite, « La seule préparation à cette grande décision qui peut changer une vie ou même un pays, ce sont ces centaines et ces milliers de décisions à demi-conscientes, déterminantes pour nous-mêmes, insignifiantes en apparence, que nous prenons en privé. » Fin de citation. Ces décisions personnelles et insignifiantes en apparence comprennent la façon dont nous utilisons notre temps, ce que nous regardons à la télévision et sur l'Internet, ce que nous lisons, l'art et la musique dont nous nous entourons au travail et au foyer, le type de distraction que nous recherchons et la façon dont nous respectons notre engagement d'être honnête et sincère. Une autre chose petite et simple en apparence est le fait d'être courtois et joyeux dans nos rapports avec autrui. Aucune de ces choses petites et simples désirables ne produit de grandes choses si nous ne les pratiquons pas régulièrement et continuellement. On prête à Brigham Young les paroles suivantes. Notre vie est faite de circonstances petites et simples qui représentent beaucoup lorsqu'elles sont mises bout à bout et constituent toute la vie d'un homme ou d'une femme. Nous sommes environnés par l'influence des médias et la détérioration culturelle dont le flot emportera nos principes si nous ne résistons pas continuellement. Pour aller à contre-courant, en direction de notre but éternel, nous devons constamment continuer de pagayer. Il est plus facile de faire partie d'une équipe qui rame en même temps, comme le montre l'image de cette équipe en action. Pour aller encore plus loin dans cet exemple, les courants culturels sont si forts que si jamais nous arrêtons de pagayer, ils nous emporteront vers une destination que nous ne recherchons pas, mais qui deviendra inéluctable si nous n'essayons pas constamment d'aller de l'avant. Après avoir cité un événement insignifiant en apparence, mais aux conséquences considérables, Néphi a écrit, et ainsi, nous voyons que par de petits moyens, le Seigneur peut réaliser de grandes choses. On en trouve un exemple mémorable dans l'Ancien Testament. On peut lire que les Israélites ont été victimes de serpents brûlants. De nombreuses personnes ont succombé aux morsures. Quand Moïse a prié pour être secouru, il a été inspiré de fabriquer un serpent d'airain et de le mettre au bout d'une perche. Alors, quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conserver la vie, une si petite chose, pour un résultat si miraculeux. Pourtant, comme l'a expliqué Néphi quand il a cité cet exemple à ceux qui se rebellaient contre le Seigneur, alors même que le Seigneur avait préparé un moyen simple pour qu'il soit guéri, à cause de la simplicité du moyen, je cite, à cause de la simplicité du moyen ou de sa facilité, il y en a beaucoup qui ont péri. Cet exemple et cet enseignement nous rappellent que ce n'est pas parce qu'un moyen est simple ou une tâche requise facile que cela signifie qu'ils ont moins d'importance pour l'accomplissement de nos désirs justes. De la même façon, même les petits actes de désobéissance ou les manquements mineurs à faire ce qui est juste peuvent nous entraîner vers une issue contre laquelle nous avons été mis en garde. La parole de sagesse en est un exemple. Les effets d'une cigarette, d'un verre d'alcool ou d'une dose d'une autre drogue sur le corps sont impossibles à mesurer. Cependant, avec le temps, leurs effets sont puissants et peuvent être irréversibles. Souvenez-vous de la fissure du trottoir, provoquée par les petites poussées graduelles de la racine de l'arbre. Une chose est sûre, les conséquences effroyables liées à la prise de tout ce qui peut entraîner une dépendance, comme les drogues qui attaquent notre corps, ou la pornographie qui dégrade nos pensées, sont totalement évitables si nous n'y goûtons jamais une première fois, pas même une seule. Il y a des années, lors d'une conférence générale, Frère M. Russell Ballard a décrit à quel point des choses petites et simples peuvent avoir une influence néfaste sur le salut d'une personne. Il a enseigné, comme de faibles fibres qui forment un écheveau, puis une ficelle, et enfin une corde. Ces petites choses, combinées, peuvent devenir si fortes qu'on ne peut les briser. Nous devons toujours garder à l'esprit le rôle que les choses petites et simples peuvent avoir dans l'édification de la spiritualité. Nous devons également être conscients que Satan utilisera les choses petites et simples pour nous mener au désespoir et au malheur. Le président Wheelwright a donné un avertissement comparable à son auditoire de BYU Hawaii. Je cite, « C'est lorsqu'on ne fait pas les choses petites et simples que la foi chancelle, que les miracles cessent et que la progression en direction du Seigneur et de son royaume marque le pas et commence à s'étioler. Parce que la quête du royaume de Dieu a fait place à des activités plus temporelles et à des aspirations profanes. » Fin de citation. Pour nous protéger des effets négatifs cumulés qui sont destructeurs pour notre progression spirituelle, nous devons suivre le modèle spirituel des choses petites et simples. Lors d'une conférence des femmes de l'université Brigham Young, David A. Bednar a dit, je cite, « Nous pouvons beaucoup apprendre sur l'importance de ce modèle spirituel à partir de la technique de l'eau qui tombe goutte à goutte sur le sol, tout doucement. Contrairement à celle qui consiste à inonder ou à déverser de grandes quantités d'eau dans des endroits où ce n'est pas nécessaire. » Il a expliqué, « Les gouttes régulières d'eau s'enfoncent profondément dans le sol et lui procurent un niveau élevé d'humidité qui permet aux plantes de bien pousser. De la même manière, si vous et moi sommes concentrés et réguliers dans la réception des gouttes de nourriture spirituelle, alors les racines de l'Évangile peuvent pénétrer profondément en notre âme, se mettre en place fermement et s'enfoncer dans le sol pour produire des fruits extraordinaires et délicieux. » En continuant, il a dit, « Le modèle spirituel de choses petites et simples réalisant de grandes choses, produit la fermeté et la constance, une dévotion plus intense et une conversion totale au Seigneur Jésus-Christ et à son Évangile. » Fin de citation. Joseph Smith, le prophète, a enseigné ce principe qui figure aujourd'hui dans les doctrines et alliances, que nul ne les considère comme de petites choses, car beaucoup de choses qui ont trait au saint en dépendent. Dans le cadre des toutes premières tentatives pour établir l'Église au Missouri, le Seigneur a conseillé d'être patient, parce que tout doit arriver en son temps. Ensuite, il a donné ce magnifique enseignement. C'est pourquoi, ne vous lassez pas de bien faire, car vous posez les fondements d'une grande œuvre. Et c'est des petites choses que sort ce qui est grand. Fin de citation. Je crois que nous voulons tous relever le défi du président Nelson d'aller de l'avant sur le chemin des alliances. Notre engagement à le faire sera renforcé si nous suivons avec constance les petites choses que nous enseigne l'Évangile de Jésus-Christ et les dirigeants de son Église. Je témoigne de lui et lui demande d'accorder ses bénédictions à quiconque s'efforce de se maintenir sur le chemin des alliances. Au nom de Jésus-Christ, amen.
Nous sommes reconnaissants au président Eyring et Oaks pour leurs messages inspirés et au cœur du Tabernacle Mormon pour la belle musique qu'il a interprétée ce matin de Pâques. J'aurai maintenant le plaisir de vous adresser la parole. Après mon discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Chantons tous plein d'allégresse », le numéro 121 des Cantiques français, et Joaquin Costa des 70 fera ensuite la prière de clôture. Quel privilège glorieux nous avons eu de célébrer Pâques ensemble à cette conférence. Rien ne peut être plus approprié que de commémorer l'événement le plus important qui se soit jamais produit sur cette terre en adorant l'être le plus important qui ait jamais vécu. Dans cette Église, l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, nous adorons celui qui a débuté son expiation infinie dans le jardin de Gethsémané. Il était disposé à souffrir pour les péchés et les faiblesses de chacun de nous, lesquelles souffrances l'ont fait saigner à chaque pore. Il a été crucifié sur la croix du calvaire et ressuscité le troisième jour, premier être ressuscité d'entre les enfants de notre Père céleste. Je l'aime et je témoigne qu'il vit. C'est lui qui dirige et guide son Église. Sans l'expiation infinie de notre Rédempteur, nul d'entre nous n'aurait l'espoir de jamais retourner auprès de notre Père céleste. Sans sa résurrection, la mort serait la fin. L'expiation de notre Sauveur a fait de la vie éternelle une possibilité et de l'immortalité une réalité pour tous. C'est grâce à sa mission transcendante et à la paix qu'il accorde à ses disciples que ma femme, Wendy et moi, avons été réconfortés tard, le 2 janvier 2018, lorsque nous avons été réveillés par un coup de téléphone nous annonçant que le président Monson avait franchi le voile. Comme il nous manque, nous rendons hommage à sa vie, à sa contribution. Géant spirituel, il a laissé une empreinte indélébile sur toutes les personnes qui l'ont connu et sur l'Église qu'il aimait. Le dimanche 14 janvier 2018, dans la salle haute du temple de Salt Lake, la première présidence a été réorganisée selon le mode simple mais néanmoins sacré établi par le Seigneur. Ensuite, lors de l'assemblée solennelle d'hier, les membres de l'Église du monde entier ont levé la main pour entériner la mesure prise précédemment par les apôtres. Je suis humblement reconnaissant de votre soutien. Je suis également reconnaissant envers les personnes sur l'œuvre de qui je m'appuie. J'ai eu l'honneur de servir au sein du Collège des 12 apôtres pendant 34 ans et de connaître personnellement 10 des 16 présidents de l'Église précédente. Chacun d'eux m'a beaucoup appris. Je dois également beaucoup à mes ancêtres. Mes 8 arrière-grands-parents se sont convertis à l'Église en Europe. Chacune de ces âmes vaillantes a tout sacrifié pour se rendre en Sion. Toutefois, au fil des générations suivantes, mes ancêtres ne sont pas tous restés aussi engagés. À cause de cela, je n'ai pas été élevé dans un foyer centré sur l'Évangile. J'adorais mes parents. Ils étaient tout pour moi et m'ont enseigné des leçons essentielles. Je ne pourrais jamais assez les remercier pour le foyer heureux qu'ils ont créé pour mes frères et sœurs et moi. Et pourtant, dès mon enfance, je savais qu'il me manquait quelque chose. Un jour, j'ai sauté dans un tramway et je suis entré dans une librairie de l'Église pour trouver un livre au sujet de l'Église. J'adorais étudier l'Évangile. Quand j'ai compris la parole de sagesse, j'ai voulu que mes parents respectent cette loi. Alors un jour, quand j'étais tout petit, je suis allé dans notre cave et j'ai fracassé sur le sol en ciment chacune des bouteilles d'alcool.
«
Je m'attendais à ce que mon père me punisse, mais il n'a pas dit un mot. En mûrissant et en commençant à comprendre la magnificence du plan de notre Père Céleste, je me suis souvent dit, je ne veux plus de cadeaux de Noël. Je veux juste être scellé à mes parents. Ceci avait plus de 80 ans lorsque cet événement tant attendu s'est produit. Mais il s'est produit. Je ne peux pas totalement exprimer la joie que j'ai éprouvée ce jour-là. Et tous les jours, j'éprouve cette joie de leur scellement et du fait d'être scellé à eux. En 1945, pendant mes études de médecine, j'ai épousé Dansel White au temple de Salt Lake. Nous avons eu la bénédiction d'avoir 9 filles superbes et un fils adorable. Le dernier, l'ultimo. Aujourd'hui, notre famille qui ne cesse de s'agrandir est l'une des plus grandes joies de ma vie. En 2005, après près de 60 ans de mariage, ma chère Dansel est décédée inopinément. Pendant quelque temps, j'étais presque paralysé par le chagrin. Mais le message de Pâques et la promesse de la résurrection m'ont soutenu. Ensuite, le Seigneur a placé Wendy Watson à mes côtés. Nous avons été scellés au temple de Salt Lake le 6 avril 2006. Combien je l'aime. C'est une femme extraordinaire, une grande bénédiction pour moi, pour notre famille et pour toute l'Église. Chacune de ces bénédictions est arrivée du fait que j'ai recherché et écouté les murmures du Saint-Esprit. Lord Resonson a dit, c'est la bénédiction grandiose de chaque saint des derniers jours. Nous avons le droit de recevoir les manifestations de l'Esprit chaque jour de notre vie. Fin de citation. L'une des choses que l'Esprit m'a maintes fois répétées depuis mon nouvel appel de président de l'Église est combien le Seigneur est disposé à révéler sa volonté. Le droit sacré de recevoir la révélation est l'un des plus grands dons de Dieu à ses enfants. Par les manifestations du Saint-Esprit, le Seigneur nous aidera dans toutes nos entreprises justes. Dans un bloc opératoire, je me souviens qu'il m'est arrivé de me pencher sur un patient, ne sachant pas comment mener à bien un procédé sans précédent. Et j'ai perçu le Saint-Esprit traçant dans mon esprit le schéma de la technique. Pour donner du poids à ma demande en mariage, j'ai dit à Wendy, je connais ce qui concerne la révélation et comment la recevoir, tout à son honneur. Et comme j'ai fini par le découvrir, c'est une attitude qui lui est coutumière, elle avait déjà recherché et reçu sa révélation à notre sujet, ce qui lui a donné le courage d'accepter ma demande de dire oui. En qualité de membre du Collège des 12 apôtres, tous les jours, je priais pour recevoir la révélation et remerciais le Seigneur chaque fois qu'il parlait à mon cœur et à mon esprit. Vous vous rendez compte combien c'est miraculeux? Quel que soit notre appel dans l'Église, nous pouvons prier notre Père Céleste et être guidés, mis en garde contre les dangers et les distractions, et recevoir la force d'accomplir des choses que nous ne pourrions tout simplement pas faire seuls. Si nous recevons réellement le Saint-Esprit et apprenons à discerner et à comprendre ses murmures, nous serons guidés dans les grandes et les petites choses. Récemment, face à la tâche ardue de choisir 2 conseillers, je me suis demandé comment je pouvais choisir seulement 2 hommes parmi 12 que j'aime et je respecte.
Sachant qu'une bonne inspiration est basée sur une bonne information, une prière dans le cœur, j'ai rencontré chacun des apôtres, un par un. Je me suis ensuite cloîtré dans une salle privée du temple et j'ai cherché à connaître la volonté du Seigneur. Je témoigne que le Seigneur m'a dit de choisir le président Oaks et le président Eyring comme conseillers dans la première présidence. De la même manière, je témoigne que le Seigneur a inspiré l'appel de frère Gang et de frère Soares à l'office d'apôtre pour y être ordonné. Je leur souhaite la bienvenue dans cette fraternité unique de service. Lorsque le Conseil de la Première Présidence et le Collège des Douze se réunissent, nos salles de réunion deviennent des salles de révélation. La présence de l'Esprit est palpable. Quand nous sommes aux prises avec des sujets complexes, il se produit un processus qui nous remplit, tandis que chaque apôtre exprime librement ses idées et son point de vue. Au début, nos points de vue peuvent diverger, mais l'amour que nous éprouvons les uns pour les autres est constant. Notre unité nous permet de discerner la volonté du Seigneur pour son Église. Dans nos réunions, ce n'est jamais la majorité qui l'emporte. Une prière dans le cœur, nous nous écoutons et nous parlons ensemble jusqu'à ce que nous soyons unis. Ensuite, lorsque nous sommes tous parfaitement d'accord, l'influence unificatrice du Saint-Esprit nous donne des frissons. Nous ressentons ce que Joseph Smith le prophète savait lorsqu'il l'a enseigné. Par l'unité, nous obtenons du pouvoir auprès de Dieu. Aucun membre de la première présidence ou du Collège des Douze ne se fierait jamais à son jugement personnel pour prendre des décisions pour l'Église du Seigneur. Mes frères et sœurs, comment pouvons-nous devenir les hommes et les femmes, les serviteurs chrétiens dont le Seigneur a besoin? Comment pouvons-nous trouver la réponse aux questions qui nous déroutent? S'il y a une leçon à tirer de l'expérience transcendante de Joseph Smith dans le bosquet sacré, c'est que les cieux sont ouverts et que Dieu parle à ses enfants. Joseph Smith, le prophète, nous a montré un modèle à suivre pour trouver la réponse à nos questions. Poussé par la promesse de Jacques, selon laquelle, si nous manquons de sagesse, nous pouvons la demander à Dieu, le jeune Joseph a présenté sa question directement à notre Père Céleste. Il a recherché la révélation personnelle et sa quête a ouvert la dernière dispensation. De la même manière, que va vous ouvrir votre quête personnelle? De quelle sagesse manquez-vous? Qu'avez-vous besoin de savoir ou de comprendre de manière urgente? Suivez l'exemple de Joseph le prophète. Trouvez un endroit tranquille où vous pouvez vous rendre régulièrement. Humiliez-vous devant Dieu et penchez votre cœur à votre Père Céleste. Tournez-vous vers lui pour trouver des réponses et du réconfort. Priez au nom de Jésus-Christ pour vos soucis, vos craintes, vos faiblesses, oui, pour les aspirations même de votre cœur. Et ensuite, écoutez. Notez les pensées qui vous viennent à l'esprit. Notez vos sentiments et faites ce que vous sentez poussé à faire. En répétant ce processus jour après jour, mois après mois, année après année, vous progresserez dans le principe de la révélation. Est-ce que Dieu veut réellement vous parler? Oui. L'homme pourrait tout aussi bien étendre son bras chétif pour arrêter le Missouri dans son cours fixé qu'empêcher le Tout-Puissant de déverser la connaissance du haut des cieux sur la tête des saints des derniers jours. Vous n'avez pas besoin de vous demander ce qui est vrai. Vous n'avez pas besoin de vous demander à qui vous pouvez réellement faire confiance. Par la révélation personnelle, vous pouvez recevoir votre propre témoignage que le livre de Mormon est la parole de Dieu, que Joseph Smith est un prophète et que cette Église est celle du Seigneur. Quoi que d'autres personnes puissent dire ou faire, personne ne pourra jamais vous enlever un témoignage rendu à votre cœur et à votre esprit de ce qui est vrai. Je vous exhorte à repousser les limites de votre capacité actuelle de recevoir la révélation personnelle, car le Seigneur a promis, si tu le demandes, tu recevras révélation sur révélation, connaissance sur connaissance, afin que tu connaisses les mystères et les choses paisibles, ce qui apporte la joie, ce qui apporte la vie éternelle. Votre Père Céleste veut que vous en sachiez tellement plus. Comme l'enseignait Neil Maxwell, à ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, il est clair que le Père et le Fils livrent les secrets de l'univers. Rien n'ouvre les cieux autant que la combinaison d'une pureté accrue, d'une obéissance rigoureuse, d'une quête sincère, d'un festin quotidien des paroles du Christ dans le livre de Mormon et d'un temps régulier consacré à l'œuvre de l'histoire familiale et du Temple. Bien sûr, il peut y avoir des moments où vous avez l'impression que les cieux sont fermés, mais je vous promets que si vous continuez d'être obéissant, d'exprimer de la reconnaissance pour chaque bénédiction que le Seigneur vous accorde, et si vous honorez patiemment le calendrier du Seigneur, vous obtiendrez la connaissance et la compréhension que vous recherchez. Toutes les bénédictions que le Seigneur en réserve pour vous, et même des miracles, arriveront. C'est ce que la révélation personnelle vous offrira. Je suis optimiste pour l'avenir. Chacun de nous aura de nombreuses possibilités de progresser, de participer et d'apporter l'Évangile à toutes les extrémités de la terre. Mais je ne suis pas non plus naïf quant aux jours qui nous attendent. Nous vivons dans un monde complexe et de plus en plus querelleur. Du fait de la disponibilité constante des réseaux sociaux et du cycle des actualités 24 heures sur 24, nous sommes constamment bombardés de messages. Pour avoir le moindre espoir de faire le tri parmi les myriades de voix et les philosophies des hommes qui attaquent la vérité, nous devons apprendre à recevoir la révélation. Notre Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ, va accomplir certaines de ses œuvres les plus puissantes d'ici à son retour. Nous allons voir des indications miraculeuses que Dieu le Père et son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, président cette terre en majesté et en gloire. Toutefois, dans les jours à venir, il ne sera pas possible de survivre spirituellement sans l'influence directrice et réconfortante du Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, je vous supplie d'accroître votre capacité spirituelle de recevoir la révélation. Que ce dimanche de Pâques soit un moment décisif dans votre vie. Décidez de faire l'effort spirituel requis pour bénéficier du don du Saint-Esprit et entendre la voix de l'Esprit plus fréquemment et plus clairement. Avec Moroni, je vous exhorte en ce sabbat de Pâques à venir au Christ et à vous saisir de tout bon don, en commençant par le don du Saint-Esprit, lequel don peut changer et changera votre vie. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. La vérité la plus importante dont le Saint-Esprit puisse jamais vous témoigner est que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il vit. Il est notre avocat auprès du Père, notre exemple est notre Rédempteur. En ce dimanche de Pâques, nous commémorons son sacrifice expiatoire, sa résurrection littérale et sa divinité. Cette Église est son Église, rétablie par l'intermédiaire de Joseph Smith le prophète. Je vous en témoigne et vous assure de mon amour pour chacun de vous, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Notre cher et aimant Père Céleste, nous t'aimons, Père. Nous aimons ton Fils Jésus-Christ. Et nous sommes reconnaissants pour cette occasion que nous avons eue de ressentir son amour pour nous. De ressentir son amour pour chacun d'entre nous. Nous te sommes reconnaissants pour ton Fils Jésus-Christ, pour ton Église et pour l'expiation de ton Fils. Nous te remercions, Père, et nous te prions afin que nous puissions grandir dans le principe de la révélation, nous rapprocher de toi et nous te demandons de nous aider à nous rapprocher de ton Fils et de toi. Nous disons ces choses humblement, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Vous venez d'assister à une session de la 188e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le Mormon Tabernacle Choir. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.